élections 2025. Les élections fédérales de 2025. Très content de recevoir Donald Charrette en studio, qui sera d'ailleurs de la soirée électorale de lundi avec Dom Dumas, Vincent Bégin, toute l'équipe. Comment ça va?
Très bien, vous autres?
Très bien. Christian Dufour, allô?
Salut, salut.
D'entrée de jeu, tu voulais dire un mot sur le pape, donc prions pour pas avoir un carnet majoritaire, mais ça, c'est ma prière à moi. C'est ma prière à moi.
Je te trouve drôle. Écoute, je ne voudrais pas manquer de respect au pape parce qu'il vient de décéder, puis quand quelqu'un meurt, je pense qu'il faut être respectueux, puis je sais que les catholiques, en fait, sont touchés par ça. Mais je réattirais l'attention sur le fait qu'on entend tout le temps le fait que le pape François, c'était un progressiste, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a défendu, en fait, les gens défavorisés, les migrants, etc. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il faut quand même préciser que je trouve pas qu'il était progressiste à ce point-là, parce que la grande réforme progressiste au sein de l'Église, je parle pas de son action politique sur la planète, mais au sein de l'Église, la vraie réforme progressiste qui aurait dû faire, à mon sens, qui aurait pu faire, parce que le souverain pontife, c'est un souverain absolu de l'Église, c'était d'ouvrir les portes de l'Église aux femmes. Et ça, il ne l'a pas fait.
Oui.
Et moi, il me semble que c'était ça l'essentiel. S'il avait fait ça, c'est ça qui serait resté de son pontificat. Puis c'est un archaïsme incroyable de penser qu'en 2025, les femmes ne peuvent pas être prêtres, ne peuvent pas être évêques, ne peuvent pas garder nous. Alors qu'en pratique, souvent, ce sont des femmes qui sont actives au sein de l'Église. Donc, c'est juste ce bémol-là que je veux souligner. Moi, ça me déçoit. Je me dis, bon, on me dit progressiste, progressiste. L'essentiel, pour être franc au sein de l'Église, il ne l'a pas fait. Il pouvait le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait?
Puis sur l'aspect des homosexuels, étant donné que tu es ouvertement gay, il n'a pas allé très loin. Il a juste dit à qui suis-je pour juger? Il n'a pas réformé l'Église, etc. Là.
Mais ça ne me dérange pas.
Okay.
Pour être franc, je ne demandais pas là, de parler d'homosexuels, d'étrangers, etc. Je parle des femmes.
Oui.
Je trouve que ça, c'est évident que c'est un archaïsme. Puis il me semble qu'on était dû pour ça. Donc, le pape François, que Dieu ait son âme, j'ai du respect. Mais quand on dit qu'il était progressiste, il y a un gros bémol.
Quand la fumée sera blanche lundi soir et qu'on aura choisi le premier ministre, qui sera-t-il? Là, je passe la poque à Donald Charrette. Là, quand même, remonté ce matin, selon CTV Nanos, de 3 % de poids lièvre. Il y a un écart de 4 % entre les deux partis. Les libéraux mènent toujours par contre. Donald.
Oui, écoute, je pense qu'on peut pas conclure tout de suite que la campagne est finie. Là. Tout ce qu'on fait comme analyse ce matin, là, c'est à l'heure actuelle. Là. Ça peut évoluer d'ici lundi.
C'est un Polaroid de 8h19.
Ouais. Ceci dit, moi, écoutez, j'ai trois points que je voudrais faire valoir suite à cette campagne-là. Là. Le premier, je trouve que c'est une campagne qui a été dominée par la peur. Elle a baigné dans la peur depuis le début. Et c'est ce qui a amené des changements, un réalignement des forces politiques. Alors, ça se traduit, par exemple, par l'effondrement du NPD, par le fait que le Bloc subit un grave recul là, au Québec. Là. Alors, tu sais, je pense que la peur a beaucoup marqué cette campagne-là. Et moi, je vous le dis, là, ça m'a toujours frappé. Je sais pas si vous avez regardé à TVA, comment qui illustre le thème électoral. Le thème électoral à TVA cette année, c'est pas le choix des citoyens, le choix des Canadiens, c'est le Canada face à Trump.
Ah, je le sais.
T'sais, je trouve que ça en dit beaucoup. T'sais, pour les gens, c'est ça, c'est qui va faire face à Trump. Alors, je pense que ça, c'est la peur. Et normalement, la peur favorise le parti au pouvoir. Alors ça, puis je vous rappellerai qu'il n'y a pas si longtemps, Justin Trudeau avait déclenché une élection précipitée sur la COVID. Alors, tu sais, normalement, le parti au pouvoir, celui qui est au gouvernement, profite du phénomène de la peur parce que les gens vont se réfugier vers une valeur sûre. Alors, moi, c'est le premier point que je ferais. Le deuxième, je dirais que j'ai trouvé, je pense qu'il faut le rappeler, comment les libéraux fédéraux ont été habiles, les dirigeants du Parti libéral. Justin Trudeau était contesté depuis l'été passé par son caucus. Alors, ils ont laissé les conservateurs caracoler dans les sondages, dominer les sondages pendant 2 ans de temps. Ils ont attendu, ils ont étiré Justin Trudeau jusqu'au mois de janvier. Et là, ils l'ont sorti, et ils ont sorti des coulisses Mark Carney, qui était là depuis un bon bout de temps, et ils l'ont présenté comme le gars avec le CV parfait, qui peut tenir tête à Trump. Alors, je les ai trouvés extrêmement habiles, puis là, ils lui ont donné une certaine stature en faisant faire des visites en Europe, en rencontrant les premiers ministres des provinces. Alors, je trouve que le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir, puis ils savent comment utiliser les outils du pouvoir pour se maintenir, là. Alors, je pense que ça, il faut le souligner, là. Et ils ont réussi, je pense, ça c'est assez extraordinaire, de présenter Mark Carney comme l'agent du changement après 10 ans de
pouvoir. Je viens d'arriver.
C'est ça. Alors, tu sais, après...
Quelle entourloupette.
Alors, tu sais, il a réussi à faire oublier 10 ans de mauvaise administration libérale en disant, regardez, je suis un nouvel homme. Et je pense en plus, ça, je trouve ça assez ironique, ils l'ont présenté comme un conservateur qui allait, bon, mieux gérer les finances de l'État, mettre l'économie en avant, etc. Et ce discours-là qui a marqué, là, a été contredit complètement par son plan fiscal qu'il a rendu public la semaine passée, là. Il va vraiment à l'encontre de ce qu'il dit. Alors, on voit que tout cela est un peu fauné.
Exact. La parole à Christian, t'as dit quoi?
Ben, je pense que c'est une campagne qui a été, de fait, dominée par la peur. Et la peur est mauvaise conseillère, comme tu dis. Au point où on en est rendu, dans le fond, on a le choix entre deux possibilités. Soit une victoire de Donald Trump, soit un triomphe de Donald Trump. Parce que Mark Carney, tout indique que c'est lui qui veut l'emporter. Puis c'est aussi une victoire de Donald Trump, parce que sans Donald Trump, Carney ne serait pas là. Il ne serait pas en position pour l'emporter. Si on avait eu une dynamique vraiment canadienne dans un système de type britannique comme le nôtre, après 10 ans d'un régime libéral que tout le monde considérait comme usé, c'est le temps de l'alternance, c'est le temps de changer de gang, et c'est plus les conservateurs qui auraient pu l'emporter. C'est très vrai que les libéraux donc ont été habiles, profilent beaucoup de la situation. Donc moi, ce qui m'intéresse, est-ce que ça va être une victoire ou un triomphe de Carney? C'est pas mal ça là, qu'on sent. Est-ce qu'il va avoir un chèque en blanc? Est-ce que pendant 4 ans, en fait, on va avoir un premier ministre avec tous les pouvoirs, un premier ministre qu'on connaît pas, pour l'essentiel? Donc, évidemment, là, les regards se portent vers les deux partis d'opposition plus petits, le Bloc québécois et le NPD. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une chance que le Bloc remonte, d'une certaine façon, parce que dans la mesure où beaucoup de gens prennent pour acquis que le Carney va l'emporter, donc ça calme un peu l'insécurité de certains. Donc, ça ne m'étonnerait pas que le Bloc remonte, même si je trouve que ce n'est pas très glorieux, l'espèce de réflexe de beaucoup de Québécois, même nationalistes, souverainistes, d'aller vers Carney, sans dire non, en fait, sur le côté velléitaire de beaucoup de souverainistes. Donc, il y a cet aspect-là. Quant au NPD, le NPD, ça va vraiment pas bien. Parce qu'au fond, c'est pas que les conservateurs se sont effondrés, c'est que c'est le NPD qui s'est effondré au bénéfice des libéraux. Les libéraux ont été chanceux de cet effondrement-là. Donc, et moi, ce que je voudrais souligner, c'est que le NPD a couru un peu après. Évidemment, il paye le prix pour Trump, pour le facteur Trump aux États-Unis. Mais c'est classique, ça. Depuis plusieurs années, on avait en pratique un gouvernement de coalition NPD et libéraux. Les deux étaient ensemble. Puis ça, c'est très, très dangereux pour le plus petit parti qui se colle auprès du parti de gouvernement. Exact. Parce que quand l'élection arrive, les électeurs ont tendance à focaliser sur le vrai choix,
oui,
le gouvernement libéral. Donc, ils ont couru après jusqu'à un certain point. Et il me semble que c'est plus difficile pour le NPD de remonter la côte suffisamment. Donc, moi, je prends pour acquis que M. Carney va l'emporter, que Trump va l'emporter.
Comment, Poilievre, allons-y dans les joueurs. Il nous reste un peu de temps, dans une dizaine de minutes, peut-être. Allons-y avec les joueurs, précisément, les principaux joueurs. Le NPD, on en a parlé, mais je vais me concentrer surtout sur Poilievre et ensuite le Bloc. Poilievre, Donald, a-t-il bien joué ses cartes? Est-ce que ça a été une bonne campagne? Est-ce qu'il aurait pu faire les choses différemment? Est-ce que le discours a été bon pour, justement, calmer la peur chez une certaine clientèle? La clientèle, disons-le, des boomers.
Ben moi, je dirais que dans l'ensemble, M. Poilievre a fait une assez bonne campagne, mais il a fait des erreurs assez importantes, là. Entre autres, je pense, de sous-estimer la peur des gens, là. C'est-à-dire qu'il aurait dû, je pense, plus rapidement se distancier de Trump, puis dès le départ, tu sais, parce que rappelez-vous, oui, à l'époque, Carney, Doug Ford, Daniel Smith, etc., tu sais, il y avait différentes attitudes. Lui, ça lui a pris plusieurs jours à dire, je vais tenir tête à Donald Trump, puis je vais aller négocier assez durement avec lui, tu sais. Ça lui a pris du temps à s'ajuster, et je pense qu'il a payé le prix. Moi, je pense que son erreur la plus flagrante, là, c'est de ne pas avoir fait d'alliance avec les conservateurs de Doug Ford en Ontario. Alors, tu sais, il n'y a pas si longtemps, les conservateurs dominaient en Ontario. Et là, écoute, si on regarde le Canada trop vite, par exemple, il y aurait 80 députés conservateurs en Ontario. C'est comme si Poilievre s'était imaginé que tu peux devenir premier ministre du Canada sans gagner l'Ontario, ce qui est impossible. T'sais. Alors, c'est là que ça se décide, là, où se fait le gouvernement, c'est en Ontario. Et au Québec, on décide de si c'est minoritaire ou majoritaire, là. Mais... Oui.
C'est parce que ça, ça se travaille. Ça fait deux ans qu'ils ne se parlent pas, les deux gars.
Oui, c'est ça.
Non, non, ils se détestent.
Il a manqué de respect.
Ils se détestent. Puis on a vu que Corey Tenneke, qui déteste Jenny Byrne, là, qui est l'organisatrice.
Il l'a carrément saboté en public.
Ah, ça sort. Ils ont commencé à tirer dans la chaloupe là, il y a deux semaines. Alors, tu sais, ça annonce des lendemains difficiles. Alors, ça, je pense que c'est une erreur là, qui est importante. Moi, je pense qu'aussi, c'est une erreur d'avoir sorti, de ne pas avoir invité les journalistes dans la caravane.
Ça envoie le mauvais message, Christian. Ça a envoyé le mauvais message en partant. T'en dis quoi?
Ben moi, il m'a déçu, Poilievre. Faut dire que ça faisait un bon moment qu'il prenait pour acquis que le pouvoir lui tomberait dans les mains tout seul. Hein, tout le monde prenait pour acquis que les libéraux étaient tellement usés que Poilievre était dû pour être premier ministre. Il y avait comme un gros défi devant lui, puis il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été capable de se réajuster. C'est sûr que c'était un gros réajustement. Il fallait changer de ton, il fallait montrer qu'on avait de l'envergure, qu'on correspondait à la situation historique auquel les Canadiens étaient confrontés. Je trouve qu'il n'y a pas eu cette envergure-là, malheureusement. Il est bien sympathique à certains égards, là. Moi, j'ai rien contre lui, mais il m'a déçu. C'est comme s'il faisait la campagne d'avant, alors qu'il fallait qu'il fasse la campagne de maintenant.
C'est ça.
Donc, je pense qu'il a eu la chance au coureur. Puis en plus de ça, ben, Carnet, évidemment, tout jouait pour lui. Hein. Donc, il aurait fallu que Poilievre soit fort. Qui parle aux Canadiens, qui rejoignent les Canadiens. Je trouve qu'il l'a raté, pour être franc.
Mais Carney a mené, puis je veux, tu fais, suppose qu'on reste avec toi, Christian, Carney a mené une bien drôle de campagne. Il a presque pas parlé. Il a répété deux, trois phrases. A arrêté sa campagne trois fois, si je ne m'abuse. Faut que je sois premier ministre, faut que je m'occupe de Trump. Dont la dernière fois, c'était ridicule. Il n'y avait même pas de tarifs sur le Canada. Faut que je m'occupe des tarifs. Il y a eu une genre d'invention, là. Il y a eu un rôle, il y a eu une théâtralisation du rôle de premier ministre qui lui a donné un break parce qu'elle avait l'air essoufflée, même à mi-campagne. T'en dis quoi, Christian?
Je pense que tu as raison. Il n'a pas mené de campagne, fondamentalement. Et dans le fond, sa sagesse, c'est d'avoir pas beaucoup parlé. Dans le fond, c'est ça qui l'a aidé. Hein. Il suffisait qu'il soit le premier ministre puis qu'il y a son CV. Moi, je l'appelais le CV sur deux pattes, là, qu'on rappelait tout le temps. Il a été directeur de la Banque du Canada puis directeur de la Banque d'Angleterre. Donc, sa sagesse, c'est de pas avoir parlé parce que quand il se met à parler, il se coule souvent parce qu'il n'a jamais fait de politique. C'est pas vrai que c'est le sauveur. Et moi, je crois que, je suis pas prophète, là, mais les Canadiens, les Québécois vont le regretter. Parce que là, ça va durer 4 ans, là, à supporter quelqu'un qui baragouine le français. Juste ça, là, de le voir aux nouvelles tous les soirs, là, qui va nous parler en français, puis c'est pénible, là. Puis il n'y a pas juste ça. C'est, comme l'a dit Donald, quelque part, c'est la même gang qu'avant, là.
Hein, Donald, c'est la même équipe. Non, quel magistral tour de magie. C'est un tour de magie.
Écoute, il faut reconnaître leur génie stratégique, là. Puis tu as raison, Christian, je pense que M. Carney n'a pas été testé vraiment. On l'a peu vu. Il a mis une campagne assez pépère, là. Alors, on ne sait pas s'il devient premier ministre la semaine prochaine, on ne sait pas de quelle sorte de premier ministre qu'on va avoir. Est-ce que ça va être le premier ministre conservateur qui va gérer de façon serrée ou ça va être celui qu'on a vu dans le plan fiscal qui va dépenser encore plus que Justin Trudeau, tu sais? Alors, lequel des deux qui va être là la semaine prochaine, on ne le sait pas et on peut avoir de très mauvaises surprises.
Le travail des médias. Moi, on écoutait des extraits, là, honnêtement, moi, j'ai trouvé que Radio-Canada, dans sa couverture, les panels, je ne veux pas te mettre en difficulté, Christian, on sait que tu travailles là, mais quand même, en général, je les ai trouvés très complaisants envers les libéraux. Je trouvais que les libéraux avaient eu une passe facile. Je trouvais qu'en général, il y a beaucoup de critiques injustifiées envers Poilievre. Je trouvais qu'il y avait une folklorisation de la droite. Ah, c'est la droite encore, les conservateurs, c'est un mini-Trump. Il y a un folklore autour de ça, Christian, qui me tanne un peu, je dois dire.
Non, t'as raison. Les faiseurs d'opinion, en général au Canada, puis plus partiellement au Québec, en général, pensent à gauche. Dans le Québec, la Révolution tranquille, là, dire que t'es à droite, pendant longtemps, c'était comme le baiser de la mort. C'est vrai qu'il y a une complaisance, non, mais c'est vrai. Je veux dire, les gens sont des conservateurs. Je sais, Mario Dumont, à l'époque, on voulait lui faire dire qu'il était à droite, puis il voulait pas. Parce qu'il était pas fou, il savait bien que ça pouvait lui nuire. Mais je dirais qu'actuellement, il y a de plus en plus de gens qui réalisent que là, on a été trop complaisant en faveur de Carney contre Poilievre. Ça, c'est clair, parce que là, on voit que normalement, c'est Carney qui va être là pour 4 ans. Donc là, il y a une lucidité nouvelle qui s'installe chez certains.
Oui, absolument, bien dit. C'est comme si le sursaut, On sent un sursaut des conservateurs en fin de campagne, Donald.
Ben oui, ils sont aussi au sondage, il y a une poussée, là, puis peut-être des gens commencent à se poser des questions, effectivement, parce que, puis en plus, je pense que la menace de Trump est moins présente, là, ça joue beaucoup, là, tu sais, son recul d'un mois, là, les gens étaient un peu terrorisés, là, ils sont moins, parce que, bon, c'est pas si dramatique pour l'instant, ouais. Si on parlait de perdre 250 000 jobs, etc., on n'en est plus là vraiment pour l'instant, là. Mais ceci, ça demeure erratique. Alors, oui, et écoute, je pense que là, il y a une légère remontée, mais est-ce que c'est suffisant pour l'emporter lundi, c'est la grande question.
C'est ça. Le mot de la fin est Christian et Donald.
Oui, bien moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a une légère remontée, mais on sent qu'il y a un mouvement de fond qui en dit long sur le Canada et le Québec. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Je trouve que dans les deux... Tiens, historiquement, le Canada, c'était la jonction de deux peuples vaincus, hein, les anciens Canadiens conquis par les Britanniques, puis les Américains loyalistes qui étaient montés au Canada parce qu'ils ne voulaient pas devenir Américains. Il y a comme une insécurité fondamentale identitaire canadienne. Absolument. Qui est sortie là-dedans, qui va faire que Berkeley va être au pouvoir malgré les 10 ans d'usure libérale.
T'as mis le doigt dessus, Donald, la fin.
Ah ben écoute, j'endosse ce que dit Christian. Oui, effectivement, je pense que c'est l'insécurité séculaire des Québécois là, qui joue et qui a fait en sorte là, qu'on a ce réalignement des forces politiques en très peu de temps. Tout ça a changé en quelques semaines. Tantôt, je pense que quelqu'un rappelait les données, mais je pense que c'est Frank, tantôt du mois de janvier. Là.
Oui.
Puis écoute, on est rendu complètement ailleurs, là, tu sais. Et puis je pense que Christian a raison. Je pense que dans le cas de Poilievre, peut-être qu'il a cru ben trop longtemps qu'il serait élu sans trop forcer, qu'il deviendrait premier ministre. Et moi, je répète, je pense que le fait d'exclure les journalistes de sa caravane, c'était une erreur, parce qu'il s'est privé de visibilité, de rassemblement où il rendait son discours. Et en plus, je pense qu'il y a une chose qu'on ne souligne pas beaucoup, le fait d'avoir des journalistes dans une caravane, ça te tient au courant de ce qui se passe. Les journalistes, c'est des mamères, alors il suffit que tu les écoutes et tu sais ce que pensent les gens, tu sais comment réagissent, et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
Oui, c'est
et c'est un espèce de... Quelqu'un parlait du canari dans la mine ou à peu près, ça va t'alerter s'il se passe quelque chose dans une autre organisation. Alors ça peut aider une organisation d'avoir des journalistes tout près. Là.
Absolument.
Et c'est privé de ça. Là.
Merci à vous deux. Rappelons que Poilievre va être avec Jean-Claude à 1h15.
Oui, c'est ça. Poilievre qui a un horaire de fin de campagne. Là.
C'est ça.
Il déjeune à Halifax, il dîne à Québec, il soupe à Saskatoon.
That's it, that's all. Hey, merci beaucoup à vous deux.
C'est plus que le bloc, hein?
Merci.
Salut, ciao.